Radio France.
France Inter. France Musique.
France Bleu.
France Culture.
À retrouver sur radiofrance.fr.
On va complètement changer de sujet puisqu'on va ouvrir la dernière séquence de l'émission. Une séquence un peu spéciale, je vous l'ai dit au début, on ne va pas revenir sur l'actualité brûlante, plus ou moins brûlante qu'on vous a déployée jusqu'ici. Mais pour conclure l'année, on a décidé de revenir sur la grève à Radio France. Une grève de plus d'un mois au printemps dernier, la plus longue de l'histoire de notre service public radiophonique. Et pour bien comprendre les enjeux avant d'en parler, Jérémy vous propose de revenir sur la chronologie et les enjeux de cette grève.
Oui, Jérémy, tu vas revenir sur le déroulement de la grève.
Oui, l'histoire de cette grève, c'est celle d'un enlisement dont personne n'avait vraiment anticipé l'ampleur. Et les choses ont pris une telle dimension, d'abord parce que Radio France, ce n'est pas rien dans le paysage audiovisuel français. C'est le premier groupe radiophonique du pays, qui totalise pas moins de 20% de part d'audience en moyenne sur ses antennes, avec évidemment une offre pléthorique, 7 chaînes au total, sans compter 2 orchestres et les dockers. Et par-dessus tout cela, comme c'est l'État qui est l'unique actionnaire de la société anonyme qu'est Radio France, et que l'histoire du groupe remonte à la vénérable ORTF et donc à la Ve République tout entière, eh bien le moindre choc subi par l'institution a des répercussions prodigieuses. Alors on peut faire remonter l'histoire du conflit à la nomination de Mathieu Gallet à la présidence du groupe, en février 2014. Mathieu Gallet, c'était la carte sérieux et charisme, et tout avait bien commencé pour lui durant les premiers mois. Il venait de l'INA, il était jeune, fringant, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Et j'exagère à peine, hein, c'était en substance ce que disaient beaucoup de portraits enthousiastes publiés à son sujet. Mais très vite, Gallet, malgré ses grands talents de communicant, a provoqué la défiance du personnel de Radio France.
Et c'est donc d'abord une querelle de personnes qui a déclenché la crise ?
Disons que les polémiques autour de Mathieu Gallet ont été l'élément déclencheur dans un contexte déjà tendu. Car Radio France va très mal, en tout cas sur le plan budgétaire. Alors très vite, à l'été 2014, il y a eu des crispations lorsque Mathieu Gallet avait renouvelé l'essentiel des dirigeants du groupe. Et puis durant l'hiver suivant, ce sont ces projets de coupe budgétaire qui avaient déplu. Il y a par conséquent une première journée de grève le 11 février dernier pour dénoncer la baisse constante du financement de l'État et les menaces pesant sur les emplois. L'orage était donc déjà dans l'air. Mais quand le Canard enchaîné révèle le 18 mars que la rénovation du bureau de Mathieu Gallet a coûté plus de 100 000 euros, alors la guerre est déclarée. Aussitôt, un préavis de grève illimité est lancé à l'appel des principaux syndicats du groupe.
Une grève qui s'éternise de manière inédite ?
Oui, inédite, c'est le cas de le dire. La grève a en effet duré 29 jours au total. C'est la plus longue, hein, comme Clément le disait, de toute l'histoire du groupe. Et il faut dire que les déboires se sont enchaînés pour le pauvre Mathieu Gallet. Il y a d'abord eu tout un tas de nouvelles révélations sur ses pratiques de dirigeant d'entreprise publique. Alors les sièges de cuir de sa voiture de fonction, les chauffeurs de l'INA qu'il a continué à utiliser, son conseiller en communication rémunéré 90 000 euros par an. Vraiment tout pour l'affliger et lui nuire. Et il n'a d'ailleurs pas manqué de dénoncer une campagne de calomnie menée contre lui, sans parvenir à émouvoir les grévistes. Dès le 3 avril, une motion de défense est votée contre lui. Et en parallèle, du côté de l'actionnaire de Radio France, l'État, eh bien, on ne diffuse pas de playlist et on se contente d'un éloquent silence radio. Il faut attendre 15 jours pour que Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, convoque simplement Mathieu Gallet au ministère, et 22 jours pour que le CSA mette en place une médiation que les syndicats réclamaient pourtant depuis le commencement. Médiation qui ne dure que quelques jours, du 9 au 13 avril. La grève est prolongée le soir du 13, marquant l'échec de la tentative.
Et finalement, tout a pris fin quelques jours plus tard.
Oui, en fait, la médiation fut la dernière péripétie du conflit. Le 15 avril, le personnel vote la levée de la grève. Et pourtant, depuis, rien n'est vraiment réglé. Les syndicats n'ont toujours pas accepté les réductions d'effectifs prévues par la présidence, ni la fusion des programmes dans certaines stations de France Bleu, ni les problèmes du coût colossal engendré par la rénovation de la Maison Ronde et la construction d'un nouvel auditorium pour les deux orchestres. Et pendant ce temps, le contrat d'objectifs et de moyens doit être signé prochainement entre l'entreprise et l'État. Et il provoque beaucoup de tensions encore. Alors, affaire à suivre.
Merci Jérémy d'avoir posé le cadre de cette grève, donc on l'a répété, la plus longue de l'histoire de Radio France. Alors, Mathieu Gallet, les conditions de travail, les journalistes, les enjeux et les acteurs sont nombreux dans cette grève, ça rend l'ensemble assez difficile à lire. Un des éléments qui a sans doute rajouté de l'huile sur un feu qui n'en avait pas besoin, c'est le rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui n'a pas manqué d'éreinter la gestion de Radio France et de proposer des solutions radicales. Alors, on peut noter d'ailleurs que ce rapport rapport fustige l'État, un État qui n'a pas été très présent dans la gestion de Radio France, et on l'a vu pendant cette grève, Flore Pellerin est intervenu extrêmement tard. Alors donc ce rapport, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Je vais vous faire réagir un petit peu sur des choses qu'il propose. Ce rapport fustige la présence de deux orchestres et d'un chœur dans Radio France. C'est insurgé que les musiciens choisissent ce qu'ils jouent. Alors Jérémy, je crois que tu voulais réagir sur ce point.
Bah oui, on n'est pas la seule radio à avoir plusieurs orchestres.
Oui, la BBC,
en a plusieurs.
On a 5.
En Allemagne, mais il y a un orchestre par ville, même les plus petites sous-préfectures de chaque ville ont des orchestres. Et puis les deux orchestres de Radio France, c'est l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Bah, ils ont chacun une identité musicale vraiment appuyée.
Oui, j'imagine.
Avec leur propre chef, leur propre répertoire. Et donc vraiment la fusion n'aura aucun sens. Et c'est pareil pour les chœurs. Les chœurs, c'est le chœur professionnel de Radio France et la maîtrise de Radio France, donc un chœur d'enfants. Donc c'est pareil, c'est deux identités, deux formations complètement différentes. Alors la fusion n'aurait vraiment pas de sens.
N'aurait absolument aucun sens, oui, c'est ce que tu dis. Est-ce que... Oui, Céline.
Jérémy, tu parlais de la BBC. Il faut savoir que, en fait, certes, ils ont plusieurs orchestres, mais en province.
Oui,
et
c'est ça.
Le problème, entre guillemets, avec Radio France, c'est que les deux orchestres sont situés à Paris, que ça coûte extrêmement cher.
Radio, ouais.
Et il y a aussi cette question des coûts de financement. Bien sûr, au-delà du fait que chacun a sa propre identité et que ça serait totalement incohérent de les faire se rejoindre dans un seul orchestre, on peut quand même se poser la question du bien fondé, d'en avoir deux. Mais bon, voilà.
Après, oui, la BBC les a redéployés en province. On pourrait aussi envisager une solution de compromis, ça en France, mais ça, c'est un autre débat. Oui.
Je crois que c'est d'ailleurs ce que souhaite la Cour des comptes. Elle donne l'exemple de la BBC, justement, pour dire, voilà, ils en ont conservé plusieurs, il faudrait les répartir sur le territoire.
Alors, toujours dans ce rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes fustige un modèle social qui serait trop généreux à Radio France. Elle liste les jours de congé des journalistes passés 5 ans d'ancienneté. Elle juge ce modèle beaucoup trop généreux. C'est vraiment trop généreux de faire de la radio.
Après, je sais pas. Moi, je suis pas journaliste à Radio France, donc je sais pas trop. Mais peut-être qu'après, il faudrait aussi regarder le temps de préparation des émissions à côté. Et s'interroger aussi par rapport aux autres radios. Enfin, j'ai aucune idée des rémunérations dans le privé, mais je sais. Moi, ce serait que je suis plutôt favorable à un modèle social
généreux, oui.
Mais voilà.
Enfin, c'est la question aussi de comment est-ce qu'on finance tout ça. Jusqu'à présent, c'est l'État qui finançait, qui a récemment baissé tout ce qu'il pouvait donner à Radio France. C'est aussi nous, les auditeurs, comment est-ce qu'on considère notre radio publique, puisque finalement, c'est nous qui la finançons à travers aussi la question de la redevance. Est-ce que ce ne serait pas aussi une manière, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer la manière dont la redevance est payée aujourd'hui, parce qu'on écoute la radio plus simplement sur son poste de radio, mais aussi sur nos smartphones. Sur, donc il y a aussi la question plus large de comment est-ce qu'on finance Radio France. Moi, je suis prête, à être pour une radio généreuse avec ses salariés, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit, il y a beaucoup de personnes qui travaillent le matin, etc. Donc forcément, on a une certaine pénibilité sans doute, et il y a des primes. Mais après, la question est, dans un contexte actuel qui est assez morose, c'est vrai que c'est peut-être... juste en un sens de demander de faire quelques efforts. Mais...
Oui. Alors, on écoutera tout à l'heure un extrait d'Agathe André qui revient donc sur cette question. Alors, avant de l'écouter, j'aimerais vous faire réagir sur un dernier sujet. Le rapport de la Cour des comptes prône une solution assez radicale dans la manière de concevoir la maison, puisqu'il propose une fusion des rédactions, des 5 ou 6 rédactions, je ne sais plus, qui composent France Inter. Si, Maëlys, c'est ce qu'il propose, de fusionner ces rédactions qui sont pour le moment distinctes les unes des autres, qui ont chacune leur propre identité.
Les rédactions, pas France Inter, les rédactions de...
France Inter, France Culture, France Info.
En fait, on aurait un pôle de journalistes, par exemple, qui s'occuperait de l'actualité internationale, une quinzaine de journalistes maintenus pour l'actualité internationale, une autre pour les flashs, faire le même type de bulletin de flash sur toutes les radios, voilà, par exemple.
Après, moi, je suis... France Inter à fond, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir plusieurs discours, parce que je pense que les gens qui écoutent France Info, ils vont attendre davantage de neutralité en matière d'information, etc. Les gens qui écoutent France Inter, ils vont attendre davantage d'analyse. France Culture, ça va être aussi différent, etc. Donc je pense que, à mon avis, la Radio France ne pourra que perdre des auditeurs
Oui, et puis que tu perds de la vitalité aussi dans les émissions.
Je suis d'accord, ils ont des identités particulières. C'est pas la même chose d'écouter France Culture que France Inter. Moi, je suis plus France Culture. Attention, petit match.
Petite révélation.
Parce qu'il y a de très bonnes émissions sur France Culture.
Oui, mais j'écoute aussi. Voilà.
France Info.
On fera une émission sur vos pratiques radiophoniques un jour.
Par contre, une question qui peut se poser, c'est sur le Move. Le Move, il y a une petite période où ça a marché pendant qu'on était au lycée. Puis ils ont perdu régulièrement des auditeurs. Je crois que c'est 300 000 auditeurs seulement maintenant. Des coûts qui sont quand même pas nets.
Ils en ont même perdu depuis la grève parce que les gens écoutaient les playlists du Move.
Voilà, et donc le Move, peut-être que le format radio n'est plus adapté comme format plus. Tourner autour d'Internet, c'est à repenser. Je pense que là-dessus, il y a des économies à faire parce qu'il faut repenser le modèle du Move.
D'accord.
Ouais, puis c'est vrai que le Move, franchement, si j'ai lu la plupart des émissions, on pourrait les mettre sur France Inter ou ailleurs, en fait, parce que c'est vraiment cohérent aussi avec l'esprit un peu.
Le but du Move, de toute manière, c'était aussi de s'adresser à une portion qui n'écoute pas forcément Radio France, c'est-à-dire les jeunes.
Bien sûr.
Et en fait, le Move, d'ailleurs, avait changé de nom, était devenu Move et s'adressait plutôt aux jeunes des banlieues, parce que quand on écoute la programmation musicale, c'est totalement différent de ce qu'il y avait il y a un an, par exemple, mais ça n'a pas enrayé apparemment la chute.
La chute des audiences. Mmh. Alors, merci pour votre participation et pour ces réflexions. Alors, on va écouter quelques extraits d'interviews qu'on a réalisées auprès de nos invités lors de la journée de la radio le 24 avril dernier. Et donc nos invités se sont exprimés sur toutes ces questions et ça va nous permettre de prolonger un petit peu finalement ces réflexions qu'on vient d'avoir. Alors on va commencer par écouter Agathe André qui est restée 5 ans à France Inter où elle a notamment créé et animé l'émission Vos désirs sont mes nuits et elle nous livre ses réflexions sur la question des moyens et du manque de moyens à Radio France.
Sur la question des manques de moyens à Radio France, moi c'est vrai que je suis restée 5 ans là-bas et j'ai vu petit à petit une tentative de décapiter ce qui, à mon avis, fait toute la richesse de Radio France et de la liberté de production qu'elle permet, c'est les réalisateurs et c'est quelques moyens de production. Et là, c'est vrai que plus ça va, plus les réalisateurs sont de moins en moins réalisateurs, mais sont remplacés par des techniciens qui font super bien leur boulot, mais qui n'est pas du tout le même métier. Et que la force, en tout cas pour France Inter, je trouve, c'est que c'était la possibilité de produire des objets sonores un peu poussés, un peu produits, comme on dit. Et c'est vrai que plus ça va, moins on a ces moyens-là. Je sais aussi que les ATA Pro, par exemple, sont les attachés de production. C'est ceux qui vont prendre... on décide ensemble de qui on aimerait avoir dans telle émission, qui vont prendre contact avec l'invité, enfin essayer de caler le calendrier. Et c'est vrai qu'ils ont une vie un peu compliquée parce qu'on les met à 50% sur deux émissions, parfois 30 fois sur trois émissions. C'est impossible, ça fait des gens qui évidemment travaillent à 100% tout le temps pour chaque émission, ils sont épuisés en fait.
Donc Agathe André qui nous explique comment fonctionne ce système des attachés de production. Donc un modèle social trop généreux, vraiment, quand on entend ça on peut quand même s'en poser la question. On va écouter maintenant François Augelier que Maëlys a interviewé toujours lors de cette journée de la radio sur cette question des moyens. Il nous explique en quoi France Culture a disposé d'une identité et d'une grande spécificité.
C'est-à-dire que France Culture a une spécificité qui est liée à des pratiques radiophoniques coûteuses, c'est-à-dire par exemple les documentaires radiophoniques qui peuvent demander des voyages à l'étranger, des travaux de montage, du mixage assez longs, donc qui ne sont pas de l'ordre du direct radio. Donc effectivement, là il y a eu des limitations possibles, effectivement, et c'est là ce sur quoi les gens sont plus attentifs. Il y a une époque, il y avait à France Culture des émissions qui faisaient 3 heures, des émissions de studio mixées, comme Le Bon Plaisir, bon, c'est une période terminée. Aujourd'hui, effectivement, les émissions sont beaucoup plus courtes, puisque peut-être les habitudes d'écoute ont changé. Mais c'est sûr qu'il y a moins de moyens, peut-être, où les moyens sont distribués différemment.
Et donc, avant de terminer et de conclure, on va écouter un dernier extrait, toujours de cette même interview, où Julia Foyce et François Angelier rappellent à quel point les techniciens sont importants à la radio.
C'est toujours pareil, on a toujours tendance à mépriser les métiers techniques en oubliant que s'ils ne sont pas là, rien ne se fait. Et que Oui, ils font grève, ils sont râleurs, ils sont parfois excessifs, etc. Mais en attendant, c'est eux qui défendent quand même la qualité du service public, quoi. C'est clair.